Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. On l'a tout devant derrière. Tout à fait, on l'a tout devant derrière.
Ok.
Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Il y a plus d'un mois, nous quittions la Nouvelle-Zélande pour cette mission antarctique vers la mer de Ross, à bord du navire Perseverance. Aujourd'hui, nous venons de quitter l'archipel des Baleinies, ces îles très peu fréquentées dont nous avons parlé dans la dernière chronique. Donc Thomas, là, on vient de quitter les îles Baleinies. Et maintenant, l'objectif suivant, c'est la station polaire française de Dumont-d'Urville à 4 jours de mer dans l'ouest. Raconte-nous un peu le parcours.
Oui, donc là, on est parti directement des Baleinies pour espérer des DU. Mais on a beaucoup de glace sur la route. Donc on est déjà obligé de monter très très nord. On est monté un peu plus que 64 degrés sud. Donc là on a retrouvé la nuit, vraiment plusieurs heures de nuit noire, surtout entre 1h et 4h toutes les nuits. On a passé le cercle polaire dans l'autre sens, ça y est.
Alors que quand on est descendu en fond de mer de Ross à 77 sud, quasiment 78, là on avait du jour permanent. Hein.
Ouais, ouais. Et donc tout ça pour ensuite pouvoir contourner la glace de mer qui a dérivé et redescendre sur les bases et la Terra Deli. Alors là, pour l'instant, la barrière de glace n'est pas du tout ouverte autour de DDU, même se reforme de plus en plus. Là, on arrive fin février. Donc ça nous paraît compromis, on vise plutôt une approche du glacier Mertz, qui est un peu plus à l'est, qui nous permettrait de voir le continent et de voir le grand glacier de près. Là, on suit de près les prévisions. On a aujourd'hui essayé de couper un peu et de se rapprocher vraiment dans l'ouest du glacier, mais impossible de franchir la glace. On s'est vraiment cassé le nez, donc on fait demi-tour, on continue de monter au nord pour ensuite pouvoir venir à l'ouest.
Oui, et d'ailleurs, pendant ton quart ce matin, il y avait un brouillard intégral autour du bateau et on était dans la glace. Au radar, il y avait un iceberg qui était sorti à peu près 200 mètres et on ne le voyait pas à l'œil nu.
Ouais, ouais, vraiment, là, de jour comme de nuit, on doit naviguer au radar. Heureusement qu'on a ces outils parce qu'on peut suivre la dérive et les positions des icebergs très précisément. Parce que là, ouais, comme tu dis, à 200 mètres, on ne voyait pas ce qu'il y avait autour de nous. Donc quand on arrive autour de 9-10 nœuds, en plus à la voile des fois, ça devient un peu sport de circuler entre les plaques et les icebergs. Donc là, on essaye de faire la voile quand même tout ce qu'on peut. Mais c'est un peu dangereux des fois dans la visibilité réduite. Hein. Heureusement qu'on a le moteur en soutien.
Oui, donc encore une fois, là, on voit les moyens modernes qui nous facilitent la vie entre le radar qui permet de naviguer dans le brouillard la nuit avec des icebergs, les cartes de prévision glace qui nous permettent d'éviter de se mettre dans des gros pièges à raques. C'est là où on relativise et qu'on a conscience du courage des explorateurs polaires du siècle dernier, quoi.
On voit vraiment qu'aujourd'hui on est guidé, on a tous les outils en main, toutes les cartes en main, on n'est pas du tout à l'aveugle dans cet océan qui est un peu hostile et qui se mérite, mais bon, on a quand même un peu plus de chance de nos jours.
Thomas, l'officier navigateur, nous parle de DDU. Dans notre jargon polaire, ça signifie Dumont-d'Urville, le nom de la base française que nous souhaitons atteindre. Le lendemain de cette discussion avec Thomas, je fais le point avec Noé, le second capitaine.
Et donc là, on fait cap au 240, donc du sud-ouest, en direction de la station française du Dumont-d'Urville. On est censé arriver donc d'ici 36 heures. Mais bon, voilà, on va voir un peu comment les conditions météo évoluent, sachant que la dernière carte des glaces nous montre que c'est quand même encore un peu touchy avec la glace qui a tendance à dériver vers l'ouest, qui nous laisserait donc un passage pour le glacier Mertz à proximité de la station française. Mais pour l'instant, c'est vrai que l'accès à Dumont-d'Urville reste un peu compromis à cause des glaces.
Ok, surtout qu'on est en fin de saison, là, on est fin février. Donc la glace de mer, la banquise, va reprendre courant mars. Et si on arrive à Dumont-d'Urville, on sera tout seul, parce que les dernières rotations de l'Astrolabe, le brise-glace qui fait la descente de la station, ben c'est maintenant. Donc il ne s'agirait pas de se retrouver coincé dans la glace et y passer l'hiver. Nous étions très motivés pour aller rendre visite à l'équipe de DDU, qui nous avait invités pour célébrer leur début d'hivernage. Mais vu les conditions de glace qui ne semblaient pas vouloir libérer le passage, la sagesse nous a finalement conduit à faire demi-tour vers le glacier Mertz, plus accessible, à 200 km dans l'est de Dumont-d'Urville. Le glacier Mertz est un immense fleuve de glace qui descend de la calotte glaciaire continentale et s'écoule dans l'océan avec un débit de 10 milliards de tonnes de glace par an, tenez-vous bien. Jusqu'en 2010, sa langue de glace flottante s'étendait en mer sur 160 km depuis la ligne d'échouage, la côte, mais aujourd'hui, elle ne fait plus que 80 km. Car, en février 2010, un immense iceberg en dérive, surnommé le B9B, est venu percuter le bout de la langue de glace, qui donc s'est brisé, générant ainsi un autre iceberg de 80 km de long sur 40 km de large, avec une épaisseur moyenne de 400 mètres. Depuis les années 90, on peut suivre la naissance puis l'évolution des gros icebergs par imagerie satellite, et on peut d'ailleurs leur donner un nom qui caractérise l'origine géographique du vélage. Donc le B9B, ce monstre de 100 km de long coupable de la rupture du Mertz, était né en 1987 d'un vélage de la barrière de Ross d'où nous arrivons avec persévérance, donc à plus de 2000 km dans l'est. Il est resté échoué sur un haut fond pendant 18 ans, puis il s'est mis à dériver vers l'ouest dans le courant antarctique côtier, pour finalement venir percuter en 2010 la langue du Mertz, qui était déjà fragilisée par des crevasses transversales majeures. Cette histoire incroyable a pu être documentée parce que le glacier Mertz est étudié depuis 1995 par des scientifiques français et australiens, qui, en plus de l'imagerie satellite, utilisent des balises GPS déployées sur le glacier afin d'en étudier les mouvements et l'évolution des crevasses. La zone océanique côtière située le long de la Terre Adélie, donc à l'ouest du glacier Mertz jusqu'à la base de DDU, cette zone s'appelle le bassin Adélie et elle est d'un intérêt majeur. Avec la mer de Ross et la mer de Weddell, c'est une des trois seules zones autour du continent antarctique où se forme l'Antarctic Bottom Water, en français ça veut dire les eaux de fond denses et froides qui alimentent la circulation océanique mondiale qui elle-même est un facteur clé du climat de la planète. C'est également un lieu de forte biodiversité riche en production primaire de plancton. Tout cela fait que cette zone est candidate au statut d'aire marine protégée et qu'elle fait l'objet de campagnes océanographiques régulières. Entre 2008 et 2016, un programme développé par l'IPEV, l'IPEV c'est l'Institut polaire français, a permis d'y effectuer chaque année pendant l'été austral une campagne océanographique depuis l'Astrolabe, le navire ravitailleur de DDU. Et j'y ai participé. Nous avons donc été témoins directs de la rupture du glacier Mertz en février 2010, et comme nous avions pu recueillir des données avant et après cette rupture, nous avons pu documenter en détail l'impact énorme de cet événement sur la circulation des masses d'eau et la biodiversité dans le bassin Adélie. Donc, revenir aujourd'hui au pied du Mertz avec persévérance est assez émouvant pour moi. Ah, Solène, moi je t'ai vu redescendre du mât, là, t'étais dans les hauteurs, dans le nid de pie, et on est devant le glacier Mertz, tout près, à 100 mètres de la falaise. Qu'est-ce que tu as vu de là-haut ?
Alors j'étais, on va dire, à la cime du glacier, quelques mètres avant de vraiment voir l'étendue du glacier. Il faisait très froid, très froid avec un tout petit peu de houle, donc il fallait toujours un peu s'accrocher, mais c'était bien. Un moment unique aussi, donc pas mal.
Oui, parce que le nid de pit était à une trentaine de mètres au-dessus de l'eau. Et donc le glacier était un peu plus haut. C'est ce qu'on avait évalué par une mesure au sextant, que le glacier devait à peu près être à 35 mètres émergent de l'eau, quoi. Et oui, je veux bien croire que tu as eu froid, parce qu'en bas, le thermomètre il indiquait moins 8. Et toi là-haut, en plus, tu te ramassais le vent qui glissait sur le glacier. Donc oui, t'as vu très froid, c'est bien ça.
Oui, c'est bien ça. Dès que je sortais le téléphone pour prendre une vidéo ou une photo, ça durait pas longtemps, quoi. Il fallait que je la remette vite dans le gant.
La falaise du Mertz s'élève donc à environ 35 mètres au-dessus de la surface de l'eau, hauteur confirmée par la grimpette de Solène dans la mature. Avec la règle des 1/9, due à la densité de la glace qui est de 0,9, on en déduit donc que le glacier s'enfonce à environ 300 mètres de profondeur. Et il flotte, car les fonds marins sous la langue de glace sont, eux, à plus de 500 mètres. Les courants qui circulent sous le glacier sont très importants à étudier, car ils influencent la vitesse de fonte du glacier et génèrent une partie de l'Antarctic Bottom Water déjà évoquée. Comme nous l'avions déjà fait il y a 3 semaines devant la barrière de Ross, nous avons donc mesuré les paramètres de la colonne d'eau juste au pied de la falaise du Mertz. Donc pendant 2 jours, nous avons réalisé de nombreux profils de température, salinité, propriétés optiques de l'eau jusqu'à 500 mètres de profondeur, grâce à notre profileur CTD et son treuil, depuis la plage arrière de Persévérance. Le courantomètre de Koch mesurait en permanence le profil des courants sous le bateau, et nous avons aussi effectué des prélèvements d'eau en surface et à différentes profondeurs, afin d'analyser les concentrations des différentes espèces de plancton. Tout cela avec le bateau en dérive à moins de 100 mètres de la falaise, donc il fallait être très vigilant, car au moindre vélage d'iceberg, il aurait fallu manœuvrer très rapidement pour échapper au pire. Heureusement, ce n'est jamais arrivé. Une fois terminées ces belles manips, une ultime analyse des cartes de glace nous a confirmé que la route pour DDU était définitivement bloquée par une banquise persistante. Nous avons donc entamé notre route de retour vers le nord, mais on n'était pas les seuls sur cette route. L'Astrolabe venait juste de quitter DDU en faisant un détour par le Mertz, donc nous avons fait un bout de chemin derrière lui en profitant de ses capacités de brise-glace pour nous faciliter la route entre les glaçons. Jean-Louis, depuis la passerelle du Persévérance, nous commente maintenant cette rencontre très émouvante.
Là, on est dans le sillage de l'Astrolabe. Il n'a pas pu passer au large de DDU, donc il est revenu sur la côte. Et puis il se trouve qu'on fait le même chemin et il nous accompagne.
Là, on est à 7 nœuds.
6 nœuds 7.
On rentre dans la glace.
6 nœuds 6.
Ok, on rassure, on est à 7 nœuds. Tu veux qu'on réduise un petit peu?
Je pense que c'est bien comme ça. Je pense que je vais accélérer un peu.
Alors, pour l'instant, c'est un pack lâche, donc garde ta distance si ça te va. Est-ce que ça dégage quand même le sillage pour toi?
Ah, bah ouais, là on passe, on vous suit. Hein. Passe ou pas,
c'est bon? Ouais, là c'est bien comme tu fais, t'enroules. Et là c'est bon.
Là on est en compact sur des plaques.
Je laisse 7 nœuds en diminution.
Ouais.
C'est génial parce que c'est deux bateaux polaires ensemble, français, qui ouvrent la voie comme ça. C'est très impressionnant, je suis vraiment ému.
Donc nous voilà en route vers la Tasmanie, le point final de notre mission. Mais il reste encore 1500 milles à parcourir à travers l'océan Austral et il va falloir jongler avec les conditions météo de fin d'été. Donc à bientôt pour en reparler, chers auditeurs. Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a retrouvé tout devant derrière. On l'a retrouvé devant derrière. Tout à fait, on l'a retrouvé tout devant derrière. Ok.